D'ici, d'ailleurs, jusqu'à 21h, comme tous les vendredis soirs, des histoires de femmes et d'hommes étrangers, immigrés, exilés, venus vivre en France. Des témoignages qui résonnent autrement avec l'actualité et qui nous éclairent sur certaines réalités de notre société. Ce soir, il sera question de la petite Kabylie, du goût des figues rafraîchies par la pluie. Il sera question de l'escalator d'Orly, de la place Félix Éboué, de pétanque, de breakdance et de la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme.
D'ici, d'ailleurs, Zoé Varier, sur France Inter.
Bonsoir Ali Guessoum.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Ali Guessoum, vous êtes né en 1965 en Algérie, dans un hameau de la petite Kabylie. Quand vous partez rejoindre vos parents en France, c'est un arrachement. On vous déguise, on vous met un costume et des chaussures pour la première fois de votre vie. Vous avez 7 ans quand vous arrivez à Paris et vous savez que votre vie ne sera plus jamais comme avant. Aujourd'hui, vous êtes directeur de l'agence de communication Semblant et fondateur de l'association Remember. C'est votre parcours que nous allons évoquer ce soir. Cette musique, c'est celle que vous entendiez quand vous étiez petit?
Oui, oui, oui.
Celle que les femmes chantaient?
Celle que les femmes chantaient durant les mariages, durant le plus souvent les mariages, oui, effectivement.
Et vous, vous étiez là parce que vous étiez un petit garçon et que vous aviez encore le droit d'être dans le monde des femmes?
Oui, on pouvait encore, jusqu'à un certain âge, être dans les deux côtés. Du côté écouter ce que les hommes faisaient et avoir le droit aussi d'être et permis d'aller écouter ou voir les femmes aussi. C'est un petit peu comme Alpha Win, vous savez, ce film.
C'est-à-dire? Non.
Il y avait un film qui tunisien d'ailleurs, ouais. qui parle d'un petit garçon qui est emmené au hammam justement par sa
oui,
mère
ouais.
Et qui est à un âge où il peut encore
être avec les femmes.
Exactement.
Donc vous, votre enfance, comme vous êtes resté jusqu'à 7 ans en Kabylie, vous pouviez encore être avec
oui,
les
j'avais,
femmes.
Oui, j'avais un passe.
Vous aviez un passe. Ali Guessoum, donc vous êtes né, comme je l'ai dit, en 65 ans en Algérie, dans la petite Kabylie, à 100 km à peu près de Bougie.
Oui, à peu près 60, oui.
60 autour de ça.
70 à peu près, oui.
Vous habitiez un village, vous habitiez où? Dans la montagne?
Oui, dans une montagne pas très haute, hein, c'est pas les grands monts du Djurdjura, mais effectivement dans un village isolé, petit hameau, au pied d'une petite ville un peu plus importante, on va dire, vraiment une... qui rassemblait encore d'autres villages, mais où il y avait l'école communale, il y avait la mairie. Alors que moi, le petit village qui s'appelle Mafouda, d'ailleurs, je le cite,
ouais.
était vraiment réduit à quelques dizaines de maisons, hein, guère plus.
C'était la famille élargie qui était là.
Oui, famille élargie, des cousins très proches, et puis comme un petit... constitué un petit peu comme, pas une fortification, mais un petit peu protégé avec deux grandes portes énormes qui se rabattaient, qui servaient aussi de lieu de rencontre, de discussion, un petit peu de place de palabre, on va dire,
mmh.
et qui permettait de franchir après, d'accéder aux maisons qui étaient vraiment très mitoyennes, en fait.
Ouais, collées les unes aux autres, c'est
puisque,
ça
oui, ouais, collées, oui.
Ouais. Quels souvenirs vous gardez de ces années dans ce village?
Il y a un mot qui me revient, c'est la nature. C'est le contact permanent avec la nature, les saisons, la terre. Je crois qu'il y a, j'allais dire un enracinement assez fort avec la terre et avec des odeurs, avec des parfums, avec des
l'odeur de quoi par exemple, vous vous souvenez de quelles odeurs?
D'odeurs de d'olivier,
de l'olive,
l'odeur de des moissons, l'odeur de la terre quand on la laboure l'hiver, l'odeur de des figues lorsque justement on les mange ou qu'on se précipite dessus quand
Alors ça faut que vous me racontiez parce que c'est magnifique. C'est quand il pleuvait, c'est ça, hein?
Quand il pleut, oui. Quand il pleuvait à peu près à hauteur à la mi-août, les orages du 15 août, et puis on observait les nuages qui apparaissaient comme ça dans le ciel, en se doutant bien que ça allait éclater, qu'on allait pouvoir profiter de ce moment magique où la pluie rafraîchit tous les figuers, et du coup tous les gamins, gamins et ados, se précipitaient dans les champs de figuiers.
Ça veut dire que vous grimpiez aux arbres ?
Oui.
Pendant qu'il pleuvait, vous attendiez que les figues soient bien rafraîchies par la pluie avant de les cueillir,
oui,
c'est ça ?
Il n'y avait pas de frigo, donc c'était une manière naturelle de les manger fraîches.
Mais c'est une image magnifique de voir tous ces enfants accrochés aux arbres pour parce que c'est délicieux, une figue fraîche.
Ah, surtout quand on la mange à l'arbre, oui.
Ouais. Donc c'est un de vos souvenirs très importants.
Oui, c'est un des souvenirs savoureux, oui.
Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Vous participiez à la vie des champs, vous aidiez
Oui, j'aidais, vous savez, c'est un petit peu comme toute société paysanne, en fait. Chacun est utile, hommes, femmes, enfants, tout le monde participe aux tâches quotidiennes qu'imposent les saisons, que ce soit les cueillettes, que ce soit les moissons.
Alors vous faisiez quoi, vous, comme cueillette ?
Alors, moi, ce dont j'ai le souvenir le plus fort, c'est les cueillettes d'olives.
L'hiver ?
C'est comme l'hiver, ça pelait.
Ouais. Ah, il fait très froid dans les montagnes.
Il fait froid, oui, bien sûr. Autant il peut faire chaud l'été, autant l'hiver, c'est l'hiver, ouais. Ça portait bien son nom. Donc, mois de novembre, entre novembre et décembre. Donc, les petits avaient une charge très précise. Les petits-enfants, ceux de grimper, là encore, aux arbres, donc en haut, pour secouer les branches. Donc, c'est des branches plus inaccessibles, plus difficiles pour l'adulte. Donc, nous, c'est les petits singes qui pouvaient monter facilement, assez agiles, pour pouvoir secouer et ensuite aider les parents, les cousins, les oncles, les tantes, à ramasser ces olives-là et puis à les emmener après chez le meunier. Pour les presser, oui.
Vous les emmeniez à Dodane ?
À Dodane. Alors, c'était pas toujours. C'était un parcours un peu, des fois, difficile parce qu'il fallait. Certains champs étaient éloignés. Il fallait traverser une rivière, donc l'âne pouvait glisser, il fallait l'aider parce qu'il ne se ramasse pas. Pour pas perdre les olives. Donc c'était la hantise un petit peu de voir tout le sac tomber, et vous imaginez après la cata pour le récupérer sur la flotte.
Ouais.
Donc après on emmenait ça chez le meunier, et ça c'était une odeur aussi qui me revient et que j'ai jamais oublié, c'est celle de l'olive lorsque la mule. Le pressoir, en fait, c'est un pressoir un peu à l'ancienne avec une grande pierre. Et ça avait une odeur fantastique, en fait. C'était un parfum que j'ai pas oublié.
Que vous n'avez pas oublié. Alors, vous alliez à l'école ou pas ?
J'allais à l'école. c'est des souvenirs un petit peu en pointillés parce que je me souviens de je pense que à cette époque-là, en Algérie, on avait bénéficié d'un stit qui était venu d'Égypte. Pas mal était venu à l'époque de relations entre l'Algérie et l'Égypte et du panarabisme et des liens fraternels qu'il y avait entre Jamal Abdel Nasser et Boumediene. Et il nous avait gratifié de quelques blaireaux qui étaient vraiment voilà, tout sauf des instits. Vraiment, au niveau de la pédagogie, c'était un peu dur, quoi.
C'était la schlag.
Ouais, c'est la schlag, ouais, c'était vraiment la règle. Donc, j'ai pas gardé forcément des souvenirs savoureux de cette période-là. Parce qu'effectivement, c'était comme une sévérité frappante, si je puis dire.
Vous avez grandi avec votre grand-mère ?
J'ai grandi avec ma grand-mère, j'ai grandi avec mes oncles, avec mes parents aussi.
Votre père travaillait à Paris, non ?
Mon père a eu des périodes où il était... il a vécu avec nous, mais après, il est parti travailler en France, effectivement.
Et votre mère l'a rejoint ?
Ma mère l'a rejoint un peu plus tard, un peu plus tard. On est resté un long moment tous ensemble. Et puis, lorsqu'il a pu opérer un regroupement familial, il a fait le nécessaire pour d'abord faire venir ma mère et ma petite sœur qui venait de naître.
Vous vous souvenez du départ de votre mère ?
Oui, 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 je m'en rappelle. Très bien.
Vous pouvez m'en parler ? Bah,
c'était un peu difficile parce que bon, j'étais pas trop en âge de comprendre et d'être patient.
Vous aviez 6 ans, c'est ça ?
Oui, voilà, j'avais 6 ans et donc j'avais mal pris. C'est la première fois que j'étais séparé comme ça. Je me sentais arraché de ma mère et donc je revois encore la voiture. Je crois que ça devait être une 403 bleu foncé.
Une 403 bleu foncé, c'est la voiture qui a emmené votre mère,
qui,
c'est ça ?
Oui, qui partait direction Alger pour l'aéroport. Et donc, j'étais malheureux comme tout. Et je courais, je crois, après la voiture pour protester.
Et la voiture s'est éloignée sans vous, c'est ça ?
Oui, 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 c'est ça.
Vous avez vu la voiture disparaître dans le paysage et vous, vous couriez comme un...
Oui, je crois. J'ai ce souvenir-là de... J'étais réconforté ou on tentait de me dire que c'était, j'allais les rejoindre évidemment, que c'était pas, il fallait être patient, mais bon, c'est un peu difficile à 6 ans de mesurer et d'avoir cette patience et de comprendre en fait ce qui se passe.
Cette nuit d'orage, entouré de mon père et de ma mère, en exil dès mon jeune âge, j'ai préparé mes affaires pour mon premier voyage, m'exiler au-delà des mers. Je revois d'ici mon village et tout ce qui me sent très cher. Pour moi, ce paysage est le préféré de la terre. L'Algérie, mon beau pays, je t'aimerai jusqu'à la mort. Loin de toi, moi je vieillis, rien n'empêche que je t'adore. Avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors, jamais je ne t'oublierai, quel que soit mon triste sort. Seul je me parle à moi-même, j'ai failli à mon devoir. J'ai mené une vie de bohème et vécu dans le cauchemar. Quand je chante ce poème, je retrouve tout mon espoir. L'Algérie, mon beau pays, je t'aimerai jusqu'à la mort. Loin de toi, moi je vieillis, rien n'empêche que je t'adore. Avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors, jamais je ne t'oublierai, quel que soit mon triste sort.
Ali Guessoum, cette chanson de Slimane Azem, c'est un peu votre histoire qu'elle raconte. C'est pour ça que vous l'avez choisie, j'imagine.
Oui, un petit clin d'œil forcément par rapport au parcours, par rapport au déracinement et à ce que on peut ressentir quand on est déchiré de quitter une terre qu'on a dans laquelle on a grandi et avec l'incertitude du lendemain, on ne sait pas trop ce qui va se passer après. Ouais. Et puis c'est aussi un hommage à cet homme extraordinaire qui est un poète qui a écrit des textes fabuleux et qui avait un côté à la fois Brassens, Bourvil, il était un petit peu à la fois tout ça, il a écrit des sketchs, il a été... C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui a vraiment marqué une époque. Il écrivait une chanson aussi fantastique qui s'appelle « La carte de résidence », justement, où il disait « Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si je dois vous dire adieu, sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France bien avant la résidence ». Donc c'est un hommage aussi aux coloniaux et... ce texte qui est écrit, je crois, en 73, et on peut le réécouter maintenant, on a l'impression qu'il l'a écrit il y a 5 minutes.
Oui, ça tellement marche, fonctionne. Ouais. Ali Guessoum, quelques temps avant votre départ pour la France, votre grand-mère un jour vous a dit de bien regarder autour de vous, de profiter de la beauté du paysage, parce que bientôt vous ne la verriez plus. Et vous avez pris mentalement, dans votre tête, vous avez pris une photo comme ça du paysage qui vous entourait.
Oui, c'est impressionnant. Ce conseil est un peu prophétique. Elle savait que ma vie basculait, allait basculer, et elle m'a. C'était au printemps et il y avait les champs étaient remplis de coquelicots. Il y avait vraiment une image sublime de vert et de rouge.
Ouais.
Et donc printemps, il y a aussi des naissances. Dans les bras, une petite mascotte, c'était une petite brebis, un petit vraiment qui venait de naître. Et donc.
Et des coquelicots comme ça partout.
Voilà, et donc je regardais ce champ, je me disais, regarde bien tout ça, photographie-le pour que tu ne l'oublies pas et que tu ne l'oublies jamais, justement. Et à ce moment-là, c'est vrai que j'ai gardé cette image-là, je l'ai toujours en tête, évidemment. Et j'ai bu ses paroles et j'ai photographié autour de moi.
Donc vous partez en 72, hein, c'est ça? Vous quittez la Kabylie en 72. Comment ça se passe? On vous prépare pour ce voyage? On vous habille? On vous fait beau?
Oui, un petit costume. oui, parce qu'on était souvent, on traînait avec des habits peu de... Voilà, de pauvres quand même. Mmh. Hein, quand je dis paysannerie, qui plus est dans un pays sous-développé. En 72, c'est à peine, c'est 7 ans après l'indépendance, donc c'est très peu, c'est vraiment un pays balbutiant. Donc j'imagine la pauvreté qu'ils pouvaient avoir. Et là, on avait mis les petits plats dans les grands, on avait un petit costume pour honorer mon départ. Et ça a été... tout s'est fait avec beaucoup de silence, en fait. Il y avait un recueillement. Je sais que chacun avait la gorge nouée, et moi le premier, à l'idée de partir. Mmh. Même s'il y avait la joie de retrouver mes parents, j'étais quand même assez, d'une part triste, angoissé, stressé.
Vous vous souvenez du chemin qui vous a monté comme ça?
Comme une procession.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que c'est un peu à l'image de la recommandation de ma grand-mère. Qui me disait regarde bien autour de toi. Je regardais j'ai l'impression de photographier chaque pierre, chaque caillou, chaque figue de Barbarie, chaque arbre, chaque maison qui m'emmenait en haut du village jusqu'à rejoindre mes cousins et une voiture pour pouvoir regagner la capitale. Et c'est vrai que j'avais envie de profiter de chaque seconde. Mais c'est marrant, c'est que C'est vraiment ce que je ressentais à ce moment-là. Et là, profite, regarde, parce que ça va basculer après. Ta vie va changer complètement.
D'ici, d'ailleurs, sur France Inter.
Ali Guessoum, de votre voyage et de votre arrivée en France, il ne vous reste que quelques images, en fait, des flashs. C'est des images en pointillé. Est-ce que vous pouvez les faire défiler pour moi? Parce que c'est comme un film qui irait très vite ou sauterait.
On va le faire en clip.
Un clip. Et il resterait comme ça quelques images. Il y a d'abord, je crois, le plateau repas, c'est ça, dans l'avion?
Rapidement, un plateau repas. Alors, je l'ai fait vraiment en mode flash.
Ouais.
Plateau repas, un truc carré. Je dis, ah tiens, c'est de la viande. Donc, je me jette dessus et je le recrache tout de suite parce que c'était un gâteau. Parce qu'on mange pas beaucoup de, on n'avait pas forcément l'occasion de manger tout le temps de la viande, donc je me disais, je vais me régaler. Et voilà, ça c'est le premier flash. Deuxième flash, un escalator. Tiens, c'est quoi ce machin-là?
À Orly. Avec votre cousine qui trébuche.
Voilà, qui trébuche. La pauvre, elle comme moi, pas vraiment habituée. Moi, je me marre un petit peu de ouais, c'est un peu burlesque forcément.
Ouais.
On se fend la gueule quand quelqu'un qui se casse la gueule, ce genre de rôle. Enfin. Qui a failli d'ailleurs, heureusement elle n'est pas tombée. Deuxième flash, là on arrive dans la ville à Paris et on passe devant une grande place que j'ai appris plus tard que c'était la place Félix Éboué, la place Daumesnil, l'avenue Daumesnil. Et là je vois d'immenses lions, des statues qui crachent de l'eau. Je me dis, tiens, mais ils sont. En langage d'aujourd'hui, on dirait qu'ils sont blindés parce que c'est vraiment un pays luxuriant où on se permet de jeter l'eau comme ça.
Ouais.
Alors quand on a passé des gamins, des heures et des heures à attendre pour aller chercher l'eau, parce que ça faisait partie aussi des souvenirs, c'est chercher de l'eau dans la source. Et des fois, elle est tarie, donc il faut attendre 4 heures pour ramasser quoi, 5-6 litres d'eau. Là, de voir d'un seul coup tout ça, ça m'a...
Vous avez dit qu'est-ce que c'est que ce pays, quoi.
En tout cas, je me suis dit c'est un pays riche, visiblement.
Ensuite, il vous reste quoi d'autre comme image? Vous en avez d'autres? C'est ça, hein, votre arrivée. Et non, il y a le métro, vous
le
voyez.
Le métro, oui, l'odeur de quand on passe au-dessus comme ça des grilles, il y a cette odeur un peu métallique.
Ouais. Voilà, l'odeur du métro parisien.
Ouais, ça, c'est une première aussi qui reste un peu dans les narines.
Et à partir de là, c'est une nouvelle vie qui commence pour vous. Et une vie en appartement. Hein, vous n'êtes plus dans la nature, deux pièces à Paris.
Ouais, après, on se retrouve. Projeté dans l'atome de la famille nucléaire, comme on dit.
C'est ça.
Et c'est vrai que d'être libre comme ça, de pouvoir libre dans le regard, parce qu'on voit des champs à perte de vue, des montagnes, des rivières, ça c'est fini. On voit des immeubles. Encore bon, ça aurait pu être pire. Je suis pas arrivé à Sarcelles. Je suis arrivé à Paris dans le 12e arrondissement. Mais quand même, c'est un petit réduit quand même de 20 mètres carrés. Ça fait un petit peu juste, quoi.
Et plus de sorties, plus de...
Non, avec plus de sorties, elles étaient assez limitées et contrôlées.
Par votre papa, qui est un homme sévère.
Très sévère.
Donc vous ne pouvez plus échapper à la sévérité de votre père. Mais heureusement, Ali, il y a un couple de retraités dans votre immeuble où vous habitez, qui vous aime bien et chez qui vous aimez aller. Et justement, avec ce couple de retraités, vous vous marrez, vous jouez au tout nouveau jeu télévisé, hein, des chiffres et des lettres.
Ouais,
ça fait partie de vos bons moments.
Super souvenir, il m'avait la bonne, c'était un couple de retraités, et des fois je leur faisais des petites courses pour les aider, et ils m'invitaient tous les soirs à jouer à ce jeu, je trouvais que c'était génial. En plus, quand on a appris le français il y a peu, c'est un exercice extraordinaire que de jouer avec la langue française, et les chiffres et les lettres étaient un souvenir savoureux que je partageais avec eux.
Et une autre évasion, c'est l'école. L'école aussi, ça vous permet de sortir de la maison, et ça c'est du plaisir, vous êtes un très bon élève, mais c'est aussi des scènes d'humiliation. Vous vous souvenez d'une scène d'humiliation particulièrement violente?
Oui, une rencontre dantesque avec le racisme, en fait.
Ouais.
Ça, c'est la première manifestation. Je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas ce que c'est que le racisme, et encore moins à cet âge-là. Et effectivement, j'étais en classe et on avait été convoquer un élève et moi. En fait, on se tire un peu la bourre. Lui était premier, après moi j'étais deuxième, et moi j'étais premier. Bon, bref. C'était l'époque des tableaux d'honneur. On ramenait un peu comme les ouvriers russes dans les Kovkhozes, on leur donnait des petites médailles. Et du coup, elle nous convoque devant l'estrade et pour nous interpréter une interrogation. Et à ce moment-là, ça s'approche, elle me regarde, elle renifle un petit peu dans l'air. Elle dit mais ça sent la merde.
Et elle vous regarde.
Elle me regarde. Bon, cerveau chaud. Et elle me dit, vous devriez me demander à votre maman de vous laver. Et l'élève à côté était bien coiffé, il avait une petite coupe à Claude François, en fait, avec l'arrêt au milieu. Il était blond comme Clo-Clo. Et propre sur lui, sauf, enfin, pas tout à fait propre, puisqu'il avait chié dans son bain.
C'était lui.
C'était lui qui était à l'origine de cette odeur qu'elle avait évidemment associée à l'arabe.
Tout de suite.
L'arabe de merde, en fait. Donc ça, c'était terrible. Sur le moment, en fait, je n'ai pas pris la mesure de tout ça. D'ailleurs, elle m'a demandé si je pouvais accompagner le
Clo-Clo,
voir les femmes de service pour qu'elle le lave. Et j'ai relaté cette anecdote à ma mère qui était morte de honte, en fait, parce que, comme vous le savez, dans les cultures du Maghreb, s'il y a bien quelque chose auquel on tient, c'est l'hygiène. Hein, le hammam a été inventé. Bon, certes, c'était hérité des Turcs qui eux-mêmes l'ont hérité des Romains, mais bon, disons qu'on a fait, on l'a bien transformé un peu dans l'art de vivre. Et voilà, donc c'est
la première fois que vous êtes confronté au racisme cette fois-là.
La première fois, oui.
Dans votre souvenir, c'est la première fois. Alors aussi violente,
c'est violent, mais d'autant plus porté par un enseignant. Sur les devises du fronton républicain, on a liberté, égalité, fraternité, pardon, et qu'on enseigne le savoir et l'éducation. C'est terrible de que ce soit une enseignante.
Mais il y a quand même eu des institutrices qui ont été formidables.
Heureusement. Et c'est justement grâce à ce type de d'enseignante où j'ai pu découvrir l'initiation à la poterie. On allait faire la patinoire tous les lundis. Au théâtre, ce qui est devenu le théâtre du Rond-Point, qui à l'époque était une patinoire. Donc c'est quand même un haut lieu, c'est génial de faire ça. On est parti en classe de neige, on est parti, on faisait du théâtre aussi. Et ça a été vraiment quelqu'un qui...
Vous vous souvenez de son prénom de
et J'ai honte, hein, vraiment, j'ai honte, je ne me souviens plus de son nom. Et pourtant, je me souviens très bien de son enseignement et tout ce qu'elle nous a donné en fait comme amour de l'autre, hein, l'idée du partage, d'émanciper vraiment l'individu. Et il y avait vraiment une démarche un peu progressiste dans et elle était passionnée. Et c'était heureusement qu'il y a eu des rencontres comme ça très importantes qui vous font aimer la France.
Love can mend your life, but love can break your heart.
Quel batteur,
hein. Ah ouais, quel batteur. C'est bien d'écouter ça.
Stewart Copeland, super police.
Super, vous écoutiez ça donc.
J'écoutais ça, j'écoutais plein de trucs, mais c'est vrai que cette période-là était, cette année-là, je crois 77, 78, c'est une année de dingue quoi. Il y a le punk, il y a ça, les reggae joués par des blancs avec qui mélangeaient le rock. Il y avait toujours la funk et la soul, ça c'est... c'était de base, James et le reggae, Bob Marley, plus tard est venu le ska, mais c'est vraiment une période où tout se mélangeait, y compris même la disco, le rap aussi a commencé.
Ouais, tout ça, là. Ouais. Donc on est à peu près en 77, et justement, 77, Ali Guessoum, votre vie change. Vous déménagez et vous partez vivre en banlieue.
Eh oui, je quitte la capitale.
À Villejuif, c'est la banlieue rouge. Vous allez au collège Karl Marx.
Avenue Yuri Gagarine,
voilà.
Ça ne s'invente pas.
Non, ça ne s'invente pas. Vous en gardez des super souvenirs et c'est la première fois que vous rencontrez des beurs. Vous découvrez donc le ghetto et la pétanque.
Une partie de pétanque, ça fait plaisir. La boule paraît se planque comme à loisir. Tu la vises et tu la manques, charge ton tir. Une partie de pétanque, ça fait plaisir.
Il est sous mon bac.
Dit par Georges, c'est super.
Ouais, merci, c'était Georges Brassens.
C'est adorable.
Donc ça, c'est David Jacoboviès qui a pensé que ça vous ferait plaisir.
Ah, oui.
Ali, vous, y avait en bas de votre immeuble, il y avait un terrain de pétanque. Et la pétanque va jouer un rôle très important dans votre vie.
Oui, c'est un réservoir social incroyable parce que c'était des rencontres avec toutes les couches de la population.
Alors racontez, expliquez-moi, qui y avait ? C'était quoi, une pépinière ? Il y avait tout le monde jouait.
Toute la ville était là en fait. Il y a des retraités, des cadres, des ouvriers, des toutes les communautés aussi, des Antillais, des Portugais, des Calabrais, des Siciliens, des Français, du Midi. C'était incroyable parce que tout le monde se mélangeait, il n'y avait pas de classe.
Non.
Il y avait juste la passion du cochonnet et puis toutes les convivialités qu'il peut y avoir parce que bon, c'est des chambreurs, c'est quand même des gens qui ont une bonne tchatche.
Ouais.
Et pour moi, c'est une immersion aussi avec des adultes qui vous jugent pas, qui vous prennent un peu en affection parce que je me débrouillais bien, j'étais plutôt adroit et puis ça me permettait moi de gagner un petit peu ma vie, je gagnais des petits concours, des petites coupes, des un petit peu d'argent.
Ouais. Non mais là vous êtes modeste en face que vous êtes devenu champion d'Île-de-France de pétanque.
Ouais, à force d'y jouer c'est forcément. c'est en bas de chez moi donc c'était je posais le sac et puis je cours et puis j'essayais de retrouver c'était aussi des rencontres un peu comment dire du fait qu'il y avait pas tout à l'heure vous avez parlé de la sévérité du père quand on a des rapports plus difficiles de discussion avec une figure masculine là c'était une manière d'avoir des référents masculins mais sans la barrière de l'éducation c'est vraiment d'autres types d'adultes, voilà.
De rapport à l'adulte.
Ouais.
Donc ça vous a construit la pétanque et...
En tout cas, une partie, ça m'a construit tout autant que de faire du sport, parce que j'en faisais beaucoup. Donc,
Mais là, la pétanque, il y a l'idée du groupe, de la solidarité, vous êtes ensemble, vous jouez ensemble, et ça, c'est important.
Oui.
Mais ce qui est drôle, c'est que vous ne jouez pas seulement à la pétanque. C'est-à-dire que vous jouez à la pétanque, mais en même temps, c'est aussi l'époque, mais vous dansez le break sur cette musique-là.
Street dance.
Guessoum, vous m'avez rappelé le mot de l'époque, on smurfait.
Ben oui,
on smurfait. Et vous smurfiez.
Rappelez-vous, il y avait Africa Bambaataa qui disait à Paris, les Zoulous sont funky.
C'est vrai. C'est
vrai, il chantait ça, ouais. Et c'est vrai que toute la banlieue, on écoutait beaucoup de soul aussi, de funk. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si plus tard, quand il y a eu l'émergence du rap, beaucoup de DJ étaient des rebeux. Parce qu'ils avaient une collection de vinyles incroyables et qu'on était très très à la pointe de la musique noire en général. C'était une manière de c'était d'autres. On s'identifiait beaucoup aussi avec la communauté noire américaine.
Mais moi, si je voulais vous faire entendre cette musique, c'était pour dire comment vous viviez dans plusieurs mondes, en fait. Dans cette cité de Villejuif, vous êtes à la fois avec les joueurs de pétanque, les vieux cocos,
les bandes,
les copains de la cité. Vous êtes dans tous ces mondes-là. Vous apprenez à jongler.
De
foot.
Le monde du tennis aussi, parce qu'à côté, il y avait des cours de tennis qui étaient mitoyens au terrain de pétanque, donc du coup je découvrais aussi un autre monde, les gens avec des Stan Smith bien blanches, bien propres, qui s'excusaient quand ils faisaient une faute, donc c'était une monde de courtoisie comme ça. Je dis, c'est marrant, il fait une faute et il s'excuse, et enfin il se plante, il la met dans le filet, il s'excuse, donc c'était
Villejuif, c'était une bonne école pour apprendre tout ce que pouvait être la France, les différents visages de la France.
Oui,
c'est
oui,
ça que vous dites.
Absolument, avec aussi l'éducation aussi populaire des communistes qui étaient présents aussi dans les quartiers. C'était pas simplement au cours du bal du 14 juillet, mais il y avait aussi des fonds de solidarité pour partir en vacances pour pas trop cher. Il y avait aussi le sport était accessible parce que c'était pas des coûts exorbitants. Et du coup, c'est vrai que ça m'a forgé aussi. Toute l'adolescence a été bercée un petit peu par ces rencontres et cette faculté de passer
de l'un à l'autre trop de problèmes. C'est ça, vous êtes devenu une sorte de caméléon social. Et puis, après, il y a mai 81, vous vous en souvenez, François Mitterrand devient président de la République.
Oui.
Vous l'imitez bien. Et deux ans plus tard, c'est la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme qu'on a appelée la marche des beurs.
Mesdames, messieurs, bonsoir. Finale en forme d'apothéose cet après-midi de la marche pour l'égalité et contre le racisme. Un final que personne n'aurait osé imaginer le 15 octobre dernier lorsque 32 jeunes immigrés décidaient de traverser à pied la France pour attirer l'attention sur les problèmes qui sont les leurs et qui les touchent chaque jour, c'est-à-dire l'indifférence et souvent même l'hostilité dont ils font l'objet.
30 000, 50 000, 100 000, les chiffres varient. Ils étaient des dizaines de milliers entre la Bastille et Montparnasse, mobilisés contre le racisme, venus de la France entière, en autocar à l'appel d'un collectif national et de 70 associations, partis et syndicats de gauche. Pour les marcheurs, tout a commencé vers 13 heures avec le repas. Enthousiasme et émotion, bien sûr, mais aussi un peu d'inquiétude, car ces enfants d'immigrés qui marchent depuis un mois et demi ont fait le pari de réveiller les Français, ces Français précisément qu'ils ont appris à mieux connaître.
On était partis en tête avec l'idée que tous les Français sont plus ou moins tous racistes. Alors là, on n'a plus le droit de généraliser. On a eu à voir des enfants qui viennent à notre rencontre, même jusqu'à avoir un policier porter les cuissons marche pour l'égalité. Alors.
Dans le cortège, ce sont aussi des images bon enfant. On n'a vraiment pas oublié le sens de la fête chez les jeunes immigrés. Mais le deuil était présent aussi. Les familles des jeunes maghrébins victimes du racisme ont manifesté dans la gravité. Les Français étaient nombreux à côté des immigrés pour témoigner leur solidarité.
D'ici, d'ailleurs, sur France Inter.
Ali Guessoum, c'était le 3 décembre 1983. Vous aviez 18 ans à l'époque. Est-ce que vous y étiez ce jour-là à Paris? Vous étiez dans la manifestation?
Pour rejoindre la Bastille, oui.
Ouais. C'était de l'espoir. Qu'est-ce que vous pensiez?
Oui, de l'espoir de voir aussi, tout à l'heure quand vous parliez de classe sociale aussi, on s'identifiait, quand on était entre nous, j'allais dire dans les cités, on était aussi, on avait quand même conscience qu'il y avait un traitement un petit peu différent, une inégalité. Il y a eu beaucoup de bavures policières, il y a eu toute une génération qui était en phase avec des violences policières, des tutoiements, des contrôles aux faciès. Tiens, c'est pas nouveau.
Non, c'est pas nouveau.
Hélas. Et puis, des meurtres aussi de gamins qui se sont fait des meurtres impunis où la justice a laissé passer. Il y a eu souvent, d'ailleurs, dans les cortèges, des slogans pas de justice, pas de paix, et à juste titre. Donc, ça.
Vous sentiez beurre? Est-ce que ça vous allait, ce mot de beurre? Vous sentiez beurre? Ça vous correspondait? Vous compreniez ce que ça voulait dire?
Oui, on nous disait des robeux, mais beurre, en fait, je veux dire, c'est plutôt... D'ailleurs, c'est Libération qui avait titré La marche des beurres, alors que, initialement, les porteurs, les initiateurs de cette marche parlaient de marche pour l'égalité contre le racisme. Donc c'est une forme d'ethnicisation. D'un mouvement collectif qui rassemblait pas que des beurs, justement. Il y avait d'ailleurs, je crois que ça devait être la voix de Toumi, moi, ouais. Je pense qu'on entendait. Et il disait à juste titre qu'il y avait vraiment une adhésion de la France entière. C'était il y a plus de 30 ans, malheureusement. J'ai l'impression qu'on est reparti de plus belle, même plutôt en arrière.
C'est terrible. Parce que sur les images sur les images que j'ai pu regarder de cette marche, on voit des filles, des garçons, on voit bien qu'il y a des choses qui ont vraiment régressé du point de vue de l'égalité déjà entre les filles et les garçons.
Oui, je crois qu'il y a eu un rendez-vous loupé. C'est une année très importante et charnière qui a été véritablement un rendez-vous raté de la République, parce que ces jeunes-là, ils n'étaient pas tous immigrés, c'était surtout enfants d'immigrés, donc ils étaient français.
C'est ça.
Et donc ils aspiraient à une place, à une reconnaissance, à une égalité de droits, de statut.
C'était une génération qui voulait sortir de l'invisibilité.
Absolument, et qui aurait été certainement une relève aussi d'une partie de la gauche, puisque c'était sous Mitterrand, et qui a été un petit peu... On l'a un peu confisqué, cette bataille-là. C'était après la grande messe de l'antiracisme.
Avec SOS Racisme.
Bon. Je peux y aller ou je...
Allez-y.
Je trouve que c'est un petit peu une... Très honnêtement, on a le sentiment, toute une génération, d'une arnaque. Qu'on s'est fait un peu déposséder de ce mouvement par d'ailleurs c'est pas Toumi qui est devenu député européen. C'est... Enfin, je veux dire, le pauvre, on leur a dit... En gros, on va s'occuper de vous, un peu comme des Samaritains, des bons chrétiens.
Oui, c'est ça. On est passé d'une revendication politique
d'égalité et des droits. Rentrez chez vous, on va parler en votre nom.
À
on va
une dire posture ne, ne touche morale. Pas mon, voilà, ne touche, voilà, pas mon pote.
Touche pas mon pote. Et c'était pas ça. C'est pas ce qu'on attendait.
Non. Vous avez eu l'impression de vous être fait avoir.
Ah, c'est pas qu'une impression.
C'est que
et on le regrette encore aujourd'hui. Enfin, je pense qu'avec ce qui s'est passé, ce qui se passe, peut-être qu'on va y revenir plus tard. Il est évident que si toute sa génération avait pu avoir un accès et être reconnue et qui est véritablement au niveau social, au niveau institutionnel, au niveau de poste, au niveau de l'accès au logement, au travail, à l'éducation, s'il y avait vraiment eu à ce moment-là, et même à la reconnaissance politique, et non pas de supplanter ça par SOS Racisme, je pense que des choses auraient été... singulièrement différente.
Ce ne serait pas la même France.
Don't deny me, sir.
Ali Guessoum, en 2011, vous avez créé une association qui s'appelle Remember.
Oui.
B-E-U-R, comme les beurs.
Oui, oui, bah,
qu'est-ce que vous...
bon enchaînement après la marche.
Voilà, c'est exactement ça. Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette association?
Célébrer et rendre hommage à toute la contribution des immigrés et des enfants d'immigrés sur le territoire, que ce soit de tirailleurs de la Première Guerre mondiale, des soldats aussi de la Seconde Guerre mondiale, les coloniaux, les travailleurs aussi, ceux qui ont construit la France des Trente Glorieuses, qui ont contribué à l'essor et à la reconstruction de ce pays.
Vous voulez produire un récit de l'immigration et un récit des banlieues sur elles-mêmes.
Produire un récit, récupérer surtout la capacité narrative de ne pas laisser les autres, entre guillemets, à notre place, parler et écrire des choses. Être en capacité d'insuffler aussi cette envie à d'autres, à des gamins, de pouvoir gérer eux-mêmes l'imaginaire, le sens critique. Être un petit peu dans la veine de l'éducation populaire, mais avec des outils nouveaux. Montrer aussi toute la contribution culturelle aussi que des générations entières ont bâti à travers le cinéma, à travers la danse. On parlait tout à l'heure du hip-hop et du rap. Combien de chorégraphes aussi, descendants issus de l'immigration, ont produit des spectacles. J'ai parlé tout à l'heure de cinéma, j'ai oublié la littérature aussi. Donc toute cette contribution a explosé le paysage aussi audiovisuel français. La culture française a été modifiée singulièrement grâce à cette contribution-là.
C'est ça que vous voulez faire entendre,
effectivement, de faire travailler et puis aussi lutter aussi contre ce fléau de la discrimination, on a parlé tout à l'heure de racisme, mais le racisme a cédé la place après une autre forme plus moins palpable du racisme, c'est les discriminations qui se
À l'embauche, pour trouver un logement.
Le logement, l'éducation, avec des territoires. Le Premier ministre, il y a un an, quand il était à peu près bien luné, parlait d'apartheid social. Cet apartheid, il s'est construit durablement. Et puis, l'immigration a été aussi, depuis les années 80, un fonds de commerce électoral. Au lieu de régler véritablement le problème, les médias aussi ont été aspirés aussi par ce curseur un peu fantasmé de peur jusqu'à avoir un petit peu... On a un sentiment un petit peu que les bolcheviques, la peur des communistes dans les années 30, c'est l'arabe maintenant qui est devenu l'ennemi.
Ça dure, hein.
Et ça dure et ça s'amplifie de plus en plus, mais qui plus est avec les événements dramatiques qui ont eu ces derniers mois.
Mais alors, ce qu'il faut dire, c'est que vous avez mis en place, là, pour cette année, une exposition qui s'appelle « Le téléphone arabe », qui est justement une exposition qui va se balader.
C'est un dispositif où on compte justement faire sonner le téléphone arabe dans plusieurs villes. On va commencer par Nanterre le 19 mars, le 20 mars, Saint-Denis. Et puis on enchaîne Place de la République le 20, 21 et 22 mars prochain.
Alors il faut expliquer ce que c'est le téléphone arabe concrètement.
Concrètement, c'est une exposition d'une part, avec une série d'affiches qui traitent un petit peu avec un humour décapant sur on retourne les préjugés, on inverse un petit peu le miroir pour montrer un petit peu le ridicule des préjugés. C'est aussi un bus qui va diffuser des films, 6 dessins animés.
Alors on voulait vous en faire écouter un extrait, mais on n'a plus le temps, on ne l'écoutera pas. Et c'est surtout une manière de récolter des témoignages.
Exactement. Et l'idée aussi, c'est de permettre aux habitants de parler des discriminations, de leur quotidien et de leur expérience, de leurs propositions aussi. Donc c'est aussi quelque chose de constructif. Et c'est aussi une manière pour les institutions de prendre un petit peu la température, non pas médiatique, c'est pas l'actualité vue par BFM, mais c'est vraiment la rue et les habitants qui vont parler de leur quotidien.
Alors justement, vous dites que...
Et on va en faire un web documentaire qui sera un outil de restitution.
D'accord.
Parce qu'on va aussi aller en province, on ira certainement à Montpellier, certainement Béziers, j'y tiens, ça serait génial, de Toulouse.
Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce téléphone arabe, c'est une ligne informelle pour faire passer le message là où les institutions ne captent pas. C'est-à-dire que vous avez la volonté de mettre les pieds dans le plat et vous voulez essayer de vous faire entendre. Et Ali Guessoum, avec cette association, vous êtes un peu retourné à vos origines. Et j'ai une question.
On y revient toujours.
On y revient toujours. Quel est votre rapport à la France ? Aujourd'hui, vous, binational
et bi-happy.
Bi-happy, pourquoi ?
Parce que c'est une richesse, la binationalité.
D'accord.
C'est une richesse aussi pour la France.
Donc binational, be happy.
Oui.
C'est vous, Ali.
C'est moi. C'est moi, Ali. mon rapport, moi, j'aurais presque envie de citer presque plutôt Victor Hugo, si vous me permettez.
Parce que
il y a un texte qui est fabuleux et qui revient aussi sur beaucoup de choses, y compris sur l'association elle-même. Les heureux doivent avoir pour malheur les malheureux. L'égoïsme social est un commencement de sépulcre. Voulons-nous vivre ? Mêlons nos cœurs et soyons l'immense genre humain. Tout ce qui souffre accuse, tout ce qui pleure dans l'individu saigne dans la société, personne n'est tout seul. Toutes les fibres vivantes travaillent ensemble et se confondent. Les petits doivent être sacrés aux grands et c'est du droit de tous les faibles que se compose le devoir de tous les forts.
C'est un extrait de quel texte ?
C'est un extrait de Le droit et la loi de Victor Hugo. Et ça, c'est mon rapport à la France et cette notion d'égalité, de liberté et de fraternité.
Et vous trouvez que dans ce texte, tout est dit ?
Il y a beaucoup de choses qui sont dites. En tout cas, dépasser l'égoïsme, la notion d'égalité, c'est quelque chose que j'ai, de liberté. Ayant vécu en Algérie, je sais que ce pays en a manqué, en a souffert. Donc, avoir vécu dans un pays où la liberté était restreinte, on mesure plus encore la chance qu'on peut avoir en France de pouvoir parler, d'avoir une opinion, l'égalité.
Vous aimez ce pays, la France ? Vous l'aimez ?
Ah oui, j'aime ce pays, bien sûr. Bien sûr, il a contribué à forger ma vie, même s'il y a des choses qui sont condamnables. Mais ça passe par des luttes aussi, des luttes collectives qu'on doit mener ensemble pour pouvoir apporter sa touche à des choses qui sont perfectibles encore dans la société et qui...
Le devoir de tous.
Le devoir de tous.
De tous l'effort, comme le disait Victor Hugo. Merci Ali Guessoum.
Walter, de son prénom.
Merci d'avoir passé cette heure avec
nous. Merci de m'avoir reçu.
Merci. C'était D'ici d'ailleurs. Assistante Alexia Lacour, réalisation David Jacubeviez, technique Eric Mainviel, programmation musicale Djoubaka. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter l'émission sur le site franceinter.fr et nous y laisser vos commentaires.